Bonjour à tous, je voulais vous partager mes retours suite à la lecture de la dernière biographie d'Elon Musk que je viens de terminer, que je recommande vraiment à tous, vraiment quel personnage haut en couleur avec tous ses excès, mais aussi tous ses accomplissements assez incroyables, tous les uns autant que les autres. Il se retrouve maintenant en fait à superviser le développement de 6 entreprises, alors Tesla, SpaceX, The Boring Company qui creuse des tunnels, Neuralink pour les interfaces homme-machine, Twitter et maintenant X.AI, l'entreprise d'intelligence artificielle qui entend rivaliser avec OpenAI, Google, Facebook, en profitant notamment de tout le flux de données vidéo reçues chaque jour de toutes les voitures du parc Tesla, ainsi que de tous les textes pondus chaque jour sur Twitter. Voilà les deux grands assets qu'il veut mettre à profit après avoir fait des recrutements de personnes très qualifiées pour lancer son activité après avoir acheté beaucoup de puissance de calcul. Voilà. Donc, en fait, je voulais revenir notamment sur les principes qui le guident dans son action. Je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, avec Elon Musk, ça, tout le monde l'a compris, à chaque fois, on commence avec une grande mission, une mission incroyable, une mission civilisationnelle. Tesla, s'est précipité à la transition énergétique, sauver la planète en quelque sorte. SpaceX, c'est de faire l'humanité une espèce multiplanétaire. Twitter, c'est le combat pour la liberté d'expression. Neuralink, c'est comment fusionner avec les machines pour justement pouvoir survivre à la super intelligence, à l'intelligence artificielle de niveau surhumain. Donc voilà, à chaque fois, on est vraiment sur des missions incroyables et en fait, il les martèle de façon répétée autant qu'il peut, très régulièrement, même quand il se retrouve à superviser des tâches de base, il rappelle constamment à tout le monde le pourquoi du comment, le purpose en anglais, quoi, la mission qu'ils sont en train de réaliser. Ça lui permet de recruter les meilleurs, notamment. Il lie donc à ces grandes missions une notion d'urgence. Il est toujours dans l'urgence. Et pourquoi ne pas le faire plus tôt? Pourquoi demain? Pourquoi le mois prochain? Pourquoi ça prendrait 6 mois? Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? Il y a notamment l'exemple du commando de Sacramento quand Twitter leur expliquait qu'ils allaient avoir besoin de 6 mois pour déménager des serveurs d'une ville à l'autre aux États-Unis. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi ça devrait prendre autant de temps. Et en fait, ils se sont mis en tête avec son plus proche cercle de tout déménager eux-mêmes à la main, le temps d'un week-end, en recrutant l'aide de déménageurs, en forçant l'entrée du centre où se trouvaient les serveurs. Alors finalement, ça s'avère être une énorme bêtise. Mais ça traduit bien en fait l'urgence dans laquelle il se place. Il est tout le temps dans l'urgence. Tout doit être fait au plus tôt, au plus vite. On est toujours sur des deadlines impossibles. Et même si derrière, il les dépasse, les deadlines, au final, il se retrouve à faire ce qui fait bien plus vite que la concurrence. Donc ça, c'est vraiment important. Au-delà des timelines, c'est aussi les process. Pourquoi on ne peut pas le faire pour moins cher? Pourquoi on ne peut pas faire pour plus simple? Et alors justement, pour cela, il utilise un algorithme mais qui va être valable en fait aussi bien dans le software que même dans la production de contenu. Mais lui, il l'utilise bien sûr dans l'industrie. Donc la première chose, c'est quand on a un besoin, on le questionne, on le remet en cause, on le challenge. Pourquoi on m'a formulé ce besoin de cette façon? Qui l'a formulé? D'où ça vient? Par défaut, les seules lois auxquelles je suis astreint sont les lois de la physique. Tout le reste, c'est par défaut débile, sauf preuve du contraire. Donc on questionne les besoins et on les rationalise, on les simplifie au maximum. Première chose. Deuxième chose, après, quand on met au point une première solution, on se demande, mais quelles sont les parties que je peux enlever? Comme il dit, the best part is no part. Parce qu'évidemment, toute partie, c'est du temps en plus de conception, de production, des coûts supplémentaires, du temps perdu. Donc, comment faire pour simplifier à l'extrême son approche? Au pire, après, on rajoutera des éléments. Mais comment faire pour retirer, simplifier, enlever? Et il explique d'ailleurs que si on ne se retrouve pas à remettre, à rajouter après coup 20% ce qu'on a enlevé, c'est qu'on n'a pas enlevé assez au départ. Donc il faut enlever beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ça, c'est valable dans le logiciel, c'est valable notamment dans la conception d'interface web. Pourquoi rajouter des étapes? On a un formulaire, pourquoi j'ai besoin de ce champ? Pourquoi j'ai besoin de demander d'autant d'informations? Limiter le nombre de clics, le nombre de comment dire, de touches à taper sur son clavier pour les utilisateurs. Comment tout simplifier à l'extrême? Et dans le contenu, ça suppose de se demander, mais quels sont les mots que je peux enlever? Est-ce que je peux pas aller droit au but? Est-ce que je peux pas faire sauter l'article de l'introduction? Typiquement, Paul Graham, qui passe beaucoup de temps à écrire des essais. Paul Graham, c'est un des fondateurs de Y Combinator, l'incubateur de start-up à succès aux États-Unis. Il explique que bien souvent, si je supprime l'introduction d'un article, ça améliore l'article parce que ça permet d'aller droit au but, on entre tout de suite dans le vif du sujet, etc. Donc, comment se demander toujours si on ne peut pas enlever, supprimer des choses qui ne servent à rien, des mots qui ne servent à rien, des étapes qui ne servent à rien dans le monde physique ou dans le monde virtuel. Ensuite, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on pouvait, bon, bah, on simplifie ce qui reste, on l'optimise, on essaie de l'accélérer, et puis enfin, on essaie d'automatiser au maximum, grâce au software, ou d'une façon ou d'une autre, tout ce qui reste, pour baisser encore plus les coûts. Donc voilà vraiment ce qu'il recommande. Si je continue sur ses conseils, alors ou ses pratiques, ce qui est intéressant dans son parcours aussi, on voit l'importance de venir en personne sur place pour régler un problème, plutôt que d'essayer de le gérer à distance au téléphone. Donc alors évidemment c'est facile pour lui parce qu'il a un jet et qui lui permet d'aller très rapidement partout aux États-Unis et dans le monde sur un coup de tête. Mais même avant d'avoir son jet, c'était très important pour lui de se voir en physique et on voit bien à quel point bien des choses se sont faites dans son parcours parce qu'il a pu rencontrer les personnes directement. Typiquement, il y a un exemple en sens inverse. Il était poursuivi par la CEO de NCBC qui voulait absolument l'interviewer et quand elle a enfin pu le rencontrer, elle lui a fait son pitch pour expliquer pourquoi il fallait qu'il la choisisse elle comme nouvelle CEO de Twitter. Et en fait, elle a réussi à faire mouche et finalement il l'a recrutée, mais tout ça n'aurait pas pu se faire à distance. C'est un des conseils d'ailleurs de Sam Altman qui a dirigé Y Combinator, qui est maintenant le CEO d'OpenAI. Il explique à quel point on sous-estime l'importance de show up in person, se pointer sur place pour vraiment changer la donne. Alors, on est vraiment dans la logique move fast and break things. Vraiment à la logique des Facebook du début, on fait au mieux avec notre prototype, on voit ce qui se passe, ça va se casser, on va réparer. Alors d'ailleurs, bien souvent, ils sont allés trop vite et ils ont perdu plein de fusées comme ça. Mais peut-être que s'ils avaient pris un peu de temps, ils auraient pu éviter quelques erreurs. Mais le problème, c'est qu'avec une telle attitude, tout prendrait bien plus de temps et ils n'avanceraient pas aussi vite. Donc, il faut mieux aller vite. Et occasionner de la casse. Alors évidemment, c'est pas valable pour tout. Si on lance une fusée avec des humains à bord, c'est complètement différent. Si on essaie de mettre au point des médicaments, c'est très différent. Mais dans plein de domaines, ça peut être pertinent. Quand on est bloqué aussi, il faut pas hésiter à proposer un défi. Voilà, mettre les gens au défi avec un prix. Typiquement, sur l'histoire des serveurs qui voulaient déménager, son cousin s'était proposé. Il lui a dit, bah, si t'arrives à déménager avant telle heure, tel jour, telle quantité, il y aura une prime. Voilà, donc ne pas hésiter à proposer des défis. Typiquement, ça va aussi dans le sens de la logique des concours. Notamment, il y a le XPRIZE, c'est un prix aux États-Unis qui vient à offrir une récompense à celui qui pourra accomplir tel exploit technique avant telle date. Et régulièrement, on s'aperçoit que les concours sont très efficaces pour stimuler l'innovation. On l'a vu notamment, je crois que c'était pour la traversée de l'Atlantique en avion. Il y avait un prix, ça avait stimulé l'innovation. Il me semble que le chronomètre de marine inventé par un Britannique et qui avait permis aux Britanniques de calculer beaucoup plus facilement la longitude et finalement de continuer à cimenter leur emprise des mers, ça avait été le résultat d'un concours. Donc, quand on organise un concours avec un prix, beaucoup d'équipes se motivent, beaucoup d'efforts sont entrepris, il y a vraiment une compétition pour gagner, et au final, le nombre d'heures de travail ou de jours de travail au total par rapport finalement à la somme qui est décernée, le rendement, le rapport, il est délirant. C'est-à-dire que s'il avait fallu financer à chaque fois tous ces efforts comme dans le cas d'entreprises séparées, en fait, ça aurait coûté les yeux de la tête, mais là, comme les gens veulent se surpasser et ne comptent pas leurs heures, et qu'on ne récompense que le gagnant, en fait, on aboutit à bien plus d'innovation. Donc ça, c'est cette logique de parfois proposer un défi. toujours faire au plus simple, ça je l'ai dit, voilà, si on a besoin de tuer une mouche, on va utiliser une tablette à mouche plutôt qu'un missile, toujours se demander comment on peut appliquer ça. Ce qui est important, on le voit aussi dans l'histoire d'Elon Musk, c'est la créativité. Il est très créatif, il a beaucoup d'humour, parfois ça peut se discuter, mais il a le sens de la formule, il a le sens du spectacle, donc à chaque fois il va trouver une accroche pour positionner un produit. Donc par exemple pour son robot Optimus, il explique voilà, on a fait en sorte de le concevoir pour qu'il puisse courir, mais pas assez vite pour que les humains puissent toujours courir plus vite que lui et ne pas se faire attraper. Donc il a toujours des petites blagues, des petites formules comme ça, et le sens du spectacle est assez évident. Donc quand il a envoyé sa roadster dans l'espace avec sa fusée Falcon Heavy, ou quand il avait fait parader à un moment donné une fusée achevée dans les rues de New York, ça avait ébranlé tout le personnel de la NASA qui s'était mis vraiment à le prendre au sérieux à partir de là. Quand on lui a expliqué les très récents progrès de ses voitures en pilotage autonome l'année dernière, tout de suite il imagine ah, mais il faudrait qu'on fasse une vidéo à la James Bond où la voiture évite des bombes, évite des ovnis qui lui tomberaient dessus, etc. Donc il est toujours en train de brainstormer, d'imaginer des scénarios un peu délirants pour mettre en avant ses produits et pour capter l'attention du grand public. Et ça, c'est vraiment une de ses forces. Parce que toutes les forces que j'énonce, en fait, elles pourraient exister séparément. Mais là, lui, le fait qu'il les ait toutes ensemble, ça produit vraiment un cocktail explosif et assez incroyable, et ça fait de lui ce qu'il est. Alors, ce qui est important aussi pour lui, c'est que tout ce qu'on fait doit pouvoir se mesurer. Il faut toujours se demander si on a défini une métrique, un objectif chiffré qu'on veut suivre, et se demander si c'est le bon. Et à partir de là, on cherche à l'optimiser. Et souvent, ça se traduit chez lui par... alors, par exemple, pour SpaceX, c'est quel est le coût d'envoyer une tonne en orbite, sur la Lune, sur le sol de Mars, et c'est ça qu'on va chercher à optimiser. Sur la conduite autonome, à un moment donné, il se posait des questions, et il est arrivé, il a dit non, ben, on veut maximiser le nombre de kilomètres parcourus sans que les gens aient besoin d'intervenir et de toucher le volant. Donc, au travers de ses entreprises, il va pouvoir définir une métrique importante, il va vouloir la placarder partout. Donc on va disposer des écrans ici et là qui vont décompter en temps réel l'évolution de cette métrique, pour que ce soit vraiment front and center, que ce soit vraiment omniprésent à l'esprit de tous les collaborateurs, tous les employés, pour que tout le monde œuvre à faire progresser cette métrique d'une façon ou d'une autre, au plus vite, le mieux possible. Donc par exemple, sur Starlink, les satellites, même parmi ses plus brillants ingénieurs, à un moment donné, se demandaient mais quelle est la métrique qu'on veut pouvoir optimiser, et lui, il arrive tout de suite, il dit non, on se demande combien, par exemple, une des questions pour les satellites, c'est comment leur fournir assez d'énergie, et donc lui, il arrive tout de suite, il dit je veux que vous me suiviez le nombre de photons reçus par les panneaux solaires des satellites et qui peuvent être utilisés derrière pour renvoyer une unité d'information sur Terre. Donc c'est vraiment un rapport entre le produit fini à la fin, donc ce qu'on renvoie sur Terre comme information, et le coût au départ, donc la quantité d'énergie disponible grâce au panneau solaire. Donc à chaque fois, ce sont des métriques originales évidemment, en fonction des pratiques du moment, donc, et les métriques peuvent évoluer dans le temps. Donc à chaque fois, par rapport aux besoins du moment, on définit une métrique, on l'affiche partout et on cherche à l'optimiser. Ce qui est important aussi, c'est que c'est la responsabilité. Tout doit être fait au nom de quelqu'un. S'il y a un process en place, il faut savoir qui est le responsable du process. S'il y a une pièce à produire, qui est le responsable de la production de cette pièce? Il faut qu'il y ait de la responsabilité, de l'ownership en anglais, pour qu'on puisse rendre des comptes, qu'on se sente responsable, qu'on puisse être derrière, qu'on puisse nous tomber dessus si vraiment ça n'avance pas assez vite. Qu'on sache qui est en charge de quoi, ça serait très important. Et à un moment donné, par exemple, ce qu'il a fait... chez Tesla, il a demandé à lister dans une grande feuille Excel la liste de toutes les pièces qui sont utilisées. Qui est le responsable? Donc, on imagine les plusieurs colonnes, donc le nom de la pièce, qui est le responsable de la pièce. Et il a rajouté aussi des colonnes originales, c'est le coût des matières premières nécessaires pour produire cette pièce. Donc on parle vraiment des matières premières, donc le coût du métal brut. Et après, le coût sur le moment de production du produit fini, et ce qu'il appelle comme métrique l'idiot index. C'est un index qui mesure, on va dire, le degré d'idiotie d'un produit, à savoir si les matières premières nous coûtent 100 et que le produit fini nous coûte 1000 à faire, on a donc un rapport de 10. de 1 à 10. Et donc, ça veut dire que clairement, on fait pas les choses comme il faudrait. Il faudrait que ça nous coûte bien moins cher, parce qu'il y a sans doute moyen d'agencer ces atomes, de travailler sur ces atomes pour arriver au produit fini en bien moins d'étapes, en faisant en sorte que ça coûte bien moins cher. Donc, voilà, il a listé toutes les pièces nécessaires pour faire une Tesla. Qui est responsable? Quel est le idiot index? Et comment le faire baisser, évidemment, avec un suivi dans le temps pour voir ce qui baisse, ce qui ne baisse pas, ce qui n'a pas baissé depuis combien de temps. Donc plein d'autres colonnes pour avoir un suivi vraiment en termes de data visualization qui lui permet à lui, le CEO, en un clin d'œil, de comprendre quelle est la pièce qui pose problème et pourquoi. En termes de data visualization, pareil, dans ses lignes de montage à Tesla, chaque poste a un feu rouge, feu vert pour savoir si, ou orange, je sais plus, pour savoir si ça bloque ou pas. Et lui, en fait, il faut l'imaginer en train de déambuler à l'intérieur de l'usine, à la recherche des feux rouges, et il arrive sur place, il met les mains dans le cambouis, il demande ce qui va pas, il pose plein de questions, from first principles pour savoir pourquoi on pourrait pas faire mieux. Voilà. Autre point, c'est donner l'exemple. Donc évidemment, il travaille plus dur que tout le monde, il se tient prêt, c'est pas du bluff, à dormir par terre. Il l'a fait chez SpaceX, il l'a fait à Tesla, il l'a fait chez Twitter, donc ça, évidemment, ça impressionne l'entourage. Voilà, il donne du feedback très très dur, évidemment, mais il explique aux gens, ne le prenez pas personnellement. Voilà, parce que si on se dit pas le cas de vérité, on n'avancera pas aussi vite qu'on voudrait. Il a une méthode de management où, en fait, parfois, ce qu'il appelle skip a level. Donc, en fait, il va interroger ses N-2 pour voir ce qui peut bloquer. Parce que parfois, les N-1 vont pas forcément tout dire, ou n'ont pas conscience de tout. Que ce soit par dessein ou par incompétence, les N-1 ne sont pas forcément au courant de tout, des problèmes, et donc il va parfois questionner les N-2. Et c'est arrivé à plusieurs reprises de s'apercevoir qu'il y avait un N-2 très prometteur qui visiblement avait l'air de mieux comprendre le problème du moment que le N-1. Et là, boum, évidemment, il fait sauter le N-1 et il promeut sur le fait le N-2 comme un général en pleine guerre qui fait monter en grade un soldat méritant. Voilà. Donc le sens de l'urgence absolue, ça on l'a dit. Donc ah oui, par un moment donné, il voulait absolument que les équipes tiennent une deadline sur l'assemblage de sa fusée, et il a donc fait afficher des écrans avec le décompte, non pas des jours, mais des heures, des minutes et des secondes. Évidemment, le message c'était que chaque seconde allait compter, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Ouais, aussi un autre point, c'est qu'il est, alors évidemment, il est très intelligent, il a une très bonne mémoire, et donc il connaît sur le bout des ongles beaucoup des problématiques dans ses entreprises. Et alors, ça lui arrive parfois de montrer qu'il ne maîtrise pas certains sujets ou même de dire des bêtises, mais c'est plus que compensé par toutes les fois où il impressionne tout le monde en montrant à quel point il connaît dans le détail tel et tel sujet de ses différentes boîtes. Et donc ça lui permet comme ça de s'immiscer dans différentes conversations et tout de suite de poser les questions les plus pertinentes ou de challenger quelqu'un sur des informations que la personne devrait savoir et que lui c'est déjà mieux que tous les autres. Donc ça vraiment impressionne ses équipes et ça évidemment ça assoit sa crédibilité, son autorité et ça permet de compenser ses excès par ailleurs. Alors les deux derniers points que je voulais aborder, c'est le fait que en fait on se rend compte qu'il vit une vie dangereuse. Alors déjà dans son enfance, j'en parle même pas. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Mais même dans ses années professionnelles, alors ça commence dès ses débuts avec PayPal où il est en voiture avec Peter Thiel et il veut lui montrer ce que peut faire sa McLaren, c'est la voiture qu'il avait acheté après la revente de sa première boîte. Et en fait, il la pousse à fond et en fait la voiture part en tête à queue, en tonneau. Bon bref, il a failli mourir ce jour-là et d'ailleurs tue avec lui Peter Thiel. Ils s'en sont sortis complètement indemnes. Bon, la McLaren était complètement pliée, mais il aurait pu déjà perdre la mort à ce moment-là. Il a failli perdre la mort. Alors là, c'est pas de son fait. Justement, il a pris des vacances. Les deux fois, il a pris des vacances. Les deux fois, ça s'est mal passé. La première fois, il s'est fait virer de sa boîte à PayPal. Et la deuxième fois, il a attrapé la malaria. Il a failli mourir. Hein. C'était à quelques heures il était à quelques heures de perdre la vie. Mais bon, là, pour le coup, il n'y était pas pour grand-chose. Mais sinon, pour ce qui est des risques qu'il prend, par exemple, lors d'un anniversaire, il a voulu faire un combat avec un vrai sumo. Et il y allait à fond et il s'est fait mal à la nuque. Et jusqu'à maintenant, il a mal à la nuque. Jusqu'à maintenant, ça l'handicape. Il est obligé de s'allonger par terre avec de la glace sur la nuque. Il a fait plusieurs opérations. Il a un mal de nuque persistant qui lui pourrit la vie. Tout ça parce qu'il a voulu faire le fou lors d'un anniversaire et foncer sur un sumo. Un autre anniversaire, il n'a pas hésité à se mettre face à un lanceur de couteau qui aurait pu lui trancher les parties intimes. Évidemment, on connaît son manque de sommeil chronique, qui en fait le rend fou. Hein. Et donc on se dit, mais d'un côté, il est brillant, mais de l'autre, ce gars-là n'arrive pas à s'économiser, ça fait des années que ça dure. Honnêtement, moi, j'ai envie de dire que dans les 15 ans qui viennent, il y a peut-être 30% de chances qu'il meure dans un accident. Je serais vraiment pas étonné. Et donc, c'est vrai qu'on se dit que avec quelqu'un comme ça, une entreprise comme Tesla va continuer à prospérer. Alors peut-être qu'elle est déjà bien trop valorisée par rapport à tous ses concurrents quand on regarde la valorisation en bourse, mais elle a tellement encore à faire dans les robots. Ils croient énormément aux robots et les progrès sont. Alors évidemment, ces robots aujourd'hui sont encore ridicules par rapport à Boston Dynamics, mais les progrès sont assez incroyables en quelques années. Donc, on se dit qu'il a tellement encore à faire, le meilleur reste peut-être encore à venir pour lui. Il ira sans doute fouler Mars un jour, même si moi je pense qu'il ne faut pas aller sur Mars pour d'autres raisons, mais c'est quand même l'impression de se dire qu'il va bien pouvoir finir par y arriver. Mais il risque de tout remettre en cause par les dangers qu'il prend, par son rythme de vie complètement délirant où il brûle la chandelle par les deux bouts. Alors, un autre point aussi, c'est qu'il en a fait des conneries et il continue d'en faire. Et à plusieurs reprises, il a été sauvé par son entourage. Qui en fait a appris à l'ignorer, à ignorer ses requêtes, ses ordres, à lui désobéir, à faire l'inverse de ce qu'il demande, et à l'écouter et en fait à ne rien faire derrière, parce qu'il connaît ses excès. Et ça, pourquoi c'est possible? Parce qu'on peut se permettre aussi de faire des conneries si on est très bien entouré. Et lui, c'est sa force, c'est qu'il est tellement brillant par ailleurs et il a des missions tellement incroyable. Mais bon, il a même un art pour rendre quelque chose peut-être de bien moins attrayant au départ, comme je sais pas moi, la gestion de Twitter, et rendre ça intéressant et pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Donc il a une telle capacité à embarquer avec lui, avec son Reality Distortion Field à la Steve Jobs, des talents, que ces talents-là vont lui pardonner ses excès et vont même remédier à ses excès en sachant lui désobéir ouvertement. Quand il fait des bêtises ou demande des choses délirantes. Et Musk a la sagesse parfois après coup, de comprendre qu'effectivement il s'était trompé et de reconnaître qu'heureusement que les autres sont là pour assurer ses arrières. Donc en fait, à plusieurs reprises, il aurait vraiment pu aller au tapis sans l'aide, sans comment dire, l'intercession de ses collaborateurs très brillants qui savent lui désobéir. C'est quand même assez particulier comme mode de fonctionnement. Je pense pas qu'on puisse voir ça par ailleurs. Bon, ce n'est pas sans rappeler Trump, à qui l'administration bien sûr désobéissait quand il recevait des requêtes délirantes, même si a priori c'était président des États-Unis, tout le monde devait lui obéir. Voilà ce que je voulais vous partager à la lecture de ce livre. C'est vraiment fascinant ce qui se prépare. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que j'avais été pas mal dégoûté de Musk par rapport à tous ces mensonges sur la conduite autonome sur Tesla, puis par rapport à sa gestion de Twitter et ses prises de position très clairement très à droite. Donc j'avais été très déçu, mais c'est vrai que quand on lit la biographie, on se dit qu'effectivement il a des défauts, mais que c'est quand même un être humain extraordinaire. Donc c'est sans doute l'être humain qui va peut-être le plus marquer le XXIe siècle, peut-être. Il a déjà pris des longueurs d'avance pour moi sur Steve Jobs, Thomas Edison, Henry Ford, et en plus sans doute que le meilleur reste encore à venir. Donc c'est quand même quelqu'un qui a déjà eu deux biographies de son vivant. Et on n'est pas au Moyen Âge, hein, on est en... Ce qui me semble très clair, c'est que le jour où sa vie sera adaptée au cinéma, et c'est évident que ça le sera, parce qu'en fait, il y a tellement d'anecdotes incroyablement cinématographiques, télégéniques dans sa biographie, il y en a même trop. Ils vont devoir se battre, ils vont devoir décider quelles anecdotes faire figurer, parce qu'il y en a trop. Il faudra un film de 10 heures pour tout afficher. Ils vont faire des choix, ils vont abandonner des anecdotes très croustillantes sur sa vie. Mais il y a tellement de matériel cinégénique, pardon, qu'une adaptation au cinéma viendra bien plus tôt qu'on ne le pense, et ça va achever d'établir son mythe, parce qu'aujourd'hui il est quand même très décrié, mais quand les gens vont voir ce par quoi il est passé dans sa jeunesse et ce qu'il nous prépare, même malgré ses excès, je pense que là on va encore atteindre un autre niveau. Alors évidemment on n'a pas envie de tomber dans le cul de la personnalité, mais je pense que les gens vont vraiment comprendre l'étendue de son personnage et la folie, en fait, la folie romanesque de sa vie. Il a quand même 10 enfants, notamment d'une de ses collaboratrices, mais avec qui, bien sûr, il n'a eu aucune relation. C'est juste qu'il a été donneur de sperme, parce qu'elle voulait absolument être mère, mais elle voulait être mère sans père, en fait. Elle voulait être mère indépendante, elle voulait pas être en couple. Et donc, il a fini par lui dire, bah, toi, est-ce que tu veux que je sois le donneur? Et elle a dit oui, donc insémination artificielle, etc. Une fécondation in vitro. Et la voilà, mère de deux de ses enfants. Au début, il n'était pas certain de vouloir les reconnaître, mais au bout d'un moment, il a dit non, mais j'aimerais bien quand même qu'il porte mon nom. Donc, en fait, voilà, maintenant, c'est clairement lui le père. Puis, il passe du temps avec les enfants aussi. Donc, il est dans une relation de coparent avec une employée, mais qui est juste une amie avec laquelle il y a rien de charnel ou de d'autres qu'amical, mais il se retrouve à être coparent avec plusieurs femmes, donc il a 10 enfants, sans doute d'autres à venir, donc il est un personnage mais complètement hors du commun, et en attendant que l'adaptation au cinéma, ça va être quelque chose. Voilà, merci à tous et à une prochaine.